RFI, Radio France Internationale, merci de votre fidélité. Il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Les réactions se succèdent au lendemain de l'adoption par le Parlement britannique d'une loi d'expulsion de migrants vers le Rwanda.
Du côté de Kigali, on est très satisfait. L'adoption de ce texte rapporte gros. L'analyse d'un spécialiste dans un instant. Est-ce une victoire politique pour Rishi Sunak ? On se pose la question depuis Londres également. Au Togo, l'église catholique empêchée par la CENI de déployer des observateurs pour les élections législatives et régionales prévu ce lundi. Le plus grand oléoduc du continent, prêt à être mis en marche ce dimanche, du pétrole nigérien a jailli du côté de Sémécraqué au Bénin. La future production est estimée à 90 000 barils par jour. Dans ce journal également, l'inquiétude des organisateurs de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar. Les fonds viennent à manquer. Puis Madagascar, pour terminer, la grande île dispose d'un nouveau défenseur des droits de l'enfant. Vous l'entendrez. La loi controversée sur l'expulsion des demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne a donc été adoptée par les deux chambres du Parlement britannique hier. Ils vont désormais pouvoir être renvoyés vers le Rwanda. Les premiers départs vers le continent devraient se faire d'ici 3 mois. Kigali qui s'est dit satisfait de l'adoption de ce texte. Je vous propose d'écouter l'avis de Benjamin Chemouni. Selon le professeur d'études en développement à l'Université catholique de Louvain en Belgique, le Rwanda a beaucoup à gagner dans cette affaire.
Jusqu'ici, pas un seul demandeur d'asile en provenance du Royaume-Uni a mis le pied au Rwanda et je crois que le gouvernement a versé 500 millions de livres sterling. En guise de comparaison, c'est environ un cinquième, un quart du budget de l'État. Surtout dans un pays qui a toujours besoin de devises étrangères, ce flot d'argent, pour l'instant sans aucune condition, rien que ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très utile au pays. La deuxième chose, c'est qu'une fois ces demandeurs d'asile au Rwanda, tous leurs frais, sauf erreur de ma part, seront payés par les Britanniques. Au Rwanda, ça leur permet d'utiliser le nombre d'infrastructures qu'ils ont. Il y a beaucoup d'hôtels dont le taux d'occupation est assez faible. Ça donnera aussi des emplois à un certain nombre de Rwandais. On sait que créer des emplois pour la jeunesse, c'est quelque chose dont le gouvernement a besoin. Donc sur le papier, le Rwanda, entre guillemets, a peu à perdre.
Est-ce que cet accueil de migrants permet à Kigali de neutraliser les critiques ?
C'est sûr que si jamais la logique est que le Royaume-Uni envoie des demandeurs d'asile parce que le Rwanda est vu comme relativement sûr avec un état de droit qui peut être garanti, en tout cas pour ces gens-là, il est difficile d'imaginer que le gouvernement britannique va par ailleurs émettre de fortes critiques sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Donc c'est sûr que ce deal, d'une manière ou d'une autre, participe un petit peu à neutraliser un certain nombre de critiques au niveau britannique.
Benjamin Chemouni, professeur d'études en développement à l'Université catholique de Louvain, joint par Alexandra Branjon. Notez cette réaction venue de l'opposition au Rwanda, celle de Franck Habineza, président du Parti Vert Démocratique. Il rappelle, je le cite, ne pas avoir voté le texte au moment de son passage devant le Parlement rwandais. Il demande maintenant que les droits humains fondamentaux soient respectés ainsi que toutes les procédures légales, quels que soient les migrants. Et depuis l'adoption de ce texte, les réactions se multiplient. Volker Turk, haut-commissaire aux droits de l'homme, appelant le gouvernement britannique à reconsidérer sa position, précisant que cette nouvelle législation créait un précédent dangereux dans le monde et côté britannique. On peut se demander si cette mesure, qui provoque un tollé politique, est une victoire pour Rishi Sunak. À Londres, Sidonie Gaucher.
Il a tenu parole. Rishi Sunak peut se féliciter d'avoir fait passer un texte imaginé par son prédécesseur Boris Johnson et transformé en étendard de son mandat de Premier ministre. S'il peut crier victoire sur le plan législatif et théorique, l'envoi de charters de réfugiés au Rwanda ne réglera pas le problème des traversées illégales de la Manche, comme l'explique Nicholas Hughes, un avocat spécialisé dans les questions d'immigration, au micro de la BBC.
On n'a jamais lu dans aucun rapport que cette politique fasse diminuer les traversées. Il n'y a aucune preuve de cela. Tout ce que l'on essaye de faire, c'est d'empêcher des personnes vulnérables d'être expulsées dans un pays pouvant leur causer des dommages.
Quelques heures après l'adoption de la loi, 5 personnes sont mortes en tentant la traversée, ce que Rishi Sunak a commenté comme restant la motivation de cette loi pour justement arrêter les bateaux. Depuis les 2 ans de préparation de ce texte, plus de 76 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni sur de petites embarcations. Denis Gaucher, Londres, RFI.
Et sachez que la loi doit être approuvée cette semaine par le roi Charles III d'Angleterre. Et vous, que pensez-vous de cette loi autorisant l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne vers le Rwanda ? Vous réagissez ce matin dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous 8h10, temps universel, en compagnie de Juan Gomez. J-5 avant les élections législatives et régionales prévues lundi au Togo. Pendant ce temps, la campagne électorale se poursuit et bat son plein, alors que vendredi dernier, les députés ont voté en deuxième lecture pour une nouvelle constitution, un texte là aussi controversé qui fera passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président Fornia Singme dispose désormais d'un peu plus d'une semaine pour le promulguer. Et alors que les préparatifs des scrutins se poursuivent, on a appris hier que la demande de l'Église catholique de déployer des observateurs a été rejetée par la Commission électorale nationale indépendante. Plus de précisions avec Magali Lagrange.
La CENI est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de l'Église catholique, peut-on lire dans un courrier daté du 12 avril et adressé aux responsables du Conseil épiscopal. La commission électorale refuse donc d'accréditer la mission d'observation électorale jusqu'à 500 personnes que la commission Justice et Paix voulait déployer pour les élections du 29 avril. La CENI justifie sa décision par l'absence de preuves d'une source de financement. Ce n'est pas la première fois que nous sommes récusés sur ce motif, commente le président de la Conférence des évêques du Togo, interrogé par Radio Vatican. La mission d'observation électorale envisagée pour la dernière présidentielle de 2020, par exemple, n'avait pas non plus été autorisée. Selon Mgr Benoît Alouonou, les observateurs sont pourtant des bénévoles pour lesquels il n'y a donc pas besoin de financement. Mgr Alouonou exprime sa tristesse quant à la modification de la Constitution à quelques jours des élections. Il la juge source de division et d'incompréhension. Au lendemain du premier vote du texte à l'Assemblée nationale, la Conférence des évêques avait déjà appelé le président Fornia Singbe à sursoir à sa promulgation.
Magali Lagrange, un peu plus de 4 ans après le début de la construction du plus grand oléoduc d'Afrique reliant Sémécraqué au Bénin à Agadem au Niger, le pétrole nigérien a enfin jailli. Un projet de construction mené par le CNPC, la Société Pétrolière Nationale Chinoise, qui devait initialement durer 2 ans et coûter 5 milliards de dollars. Il s'agit là d'une importante étape dans le processus des premières exportations. Jean-Luc Aplogan est à Cotonou pour RFI.
Il s'agit d'une étape symbolique mais cruciale pour le Niger, qui sera désormais classé parmi les pays africains producteurs de pétrole qui comptent. Les estimations tablent sur 90 000 barils jour. Tout semble prêt et fonctionnel. Les forages d'Agadem pour l'extraction, le méga oléoduc de près de 2000 km et les 9 stations remplies sur le trajet du pipeline. Tout ceci a permis au pétrole de couler à la station terminale de Sémécraqué, située entre Cotonou et Porto Novo, côté océan Atlantique. Les reports et les retards qui ont parfois fait traîner le projet sont maintenant derrière. Ce nouveau statut de pays exportateur d'or noir rapportera à l'économie nigérienne d'importants revenus pétroliers. Le Bénin en profitera également avec la redevance qui sera perçue sur le pétrole qui traverse le pays via l'oléoduc. Reste à voir comment les deux pays en froid depuis le coup d'état du général Tiani vont composer. Il n'y a pas eu de communiqué annonçant l'arrivée du pétrole sur la plateforme de Sémécraqué, ni sur la date des premières exportations. Aucun officiel béninois sollicité n'a souhaité s'exprimer. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Burkina Faso, la justice a une nouvelle fois ordonné la libération de Guy Hervé Kam. L'avocat avait été arrêté le 24 janvier dernier, accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État. Le tribunal administratif avait déjà exigé sa remise en liberté le mois dernier, mais l'État avait fait appel. Pour le moment, Guy Hervé Kam est toujours enfermé. Au Mali, près d'une quinzaine de jours après l'annonce par les autorités de la suspension des activités des partis et associations à caractère politique, la coalition formée pour contester la prolongation de la transition au-delà du 26 mars a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour suprême pour demander l'annulation de ce décret. À moins d'un mois de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, son organisation est menacée faute de financement. Le rendez-vous de renommée mondiale est prévu le 16 mai, mais sa 15e édition pourrait donc ne pas voir le jour. Les explications à Dakar de notre correspondante Léa-Lisa Vesteroff.
En cause, le manque d'argent. Les deux derniers versements qui devaient être faits par l'État et ceux avant la présidentielle n'ont pas été honorés, confirme une source proche du dossier. Sur le budget d'1,5 milliard de francs CFA prévu par l'État, moins d'un tiers serait actuellement disponible, selon un membre du comité d'organisation. Sans ce budget, impossible de payer le transport des œuvres d'artistes africains qui viennent du monde entier, d'éditer un catalogue ou encore de loger les artistes, selon cette même source. Et à 22 jours de l'ouverture de la biennale, même si les fonds devaient être finalement finalement trouvée. Le délai est de plus en plus intenable pour garantir l'arrivée des œuvres à temps, notamment par bateau. Résultat, certains plaident pour un report de la biennale à novembre prochain. Un coup dur pour cet événement qui, depuis sa création en 92, n'a été reporté qu'une seule fois en raison du Covid. Une réunion doit trancher sur le maintien ou le report de la biennale aujourd'hui. Est attendu aussi un arbitrage de la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadid Yengey, qui hérite malgré elle des dettes laissées par le gouvernement précédent. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
RFI, Radio France Internationale, il est 8h40 à Antananarive. L'actualité de Madagascar où l'un des piliers du parti de l'ancien président Marc Ravalomanana a été placé en détention. Il s'agit d'Olga Ramalasson, candidate de la plateforme de l'opposition aux législatives prévues en mai prochain. Elle a été incarcérée hier soir, le matin même. L'ancienne ministre et sénatrice avait été convoquée par le pôle anticorruption dans le cadre d'une affaire foncière datant de 2009. Madagascar, toujours la grande île qui dispose d'un nouveau visage de la défense des droits de l'enfant. Gilardi Toutouzange, 20 ans, a été nommé hier par l'UNICEF. Il portera ainsi haut la voix des enfants vivant avec un handicap ou atteints d'albinisme. Lui-même albinos, il lutte depuis des années pour plaider pour une meilleure inclusion, une meilleure protection des droits des personnes touchées par cette condition. Une mission de taille dans un pays où les albinos sont persécutés et leurs organes parfois utilisés pour faire de la magie noire. Sarah Teto a rencontré Gilardi Toutouzange à Antananarive.
Porter la voix des opprimés, des invisibles et des exclus, voilà le combat que Gilardi Toutouzange, 20 ans, s'est engagé à mener en tant que tout nouveau défenseur des droits de l'enfant à l'UNICEF. Du courage, Gilardi sait combien il en faut pour vivre avec sa différence, lui qui a longtemps été moqué, insulté et a souffert de solitude du fait de son albinisme.
Certains nous voient soit comme des malédictions, soit comme des bénédictions. D'autres tentent de nous tuer, vu que nos organes, nos yeux ont une valeur marchande à ce qui paraît. Ces genres de choses ont malheureusement l'effet de réduire le moral de ces personnes, et principalement les plus jeunes. Les plus petits sont les plus fragiles. Nous nous devons d'agir pour leur avenir à eux.
Légiférer pour mieux protéger les droits des personnes porteuses de handicap reste un objectif, mais non une fin pour Christine Jones, la représentante de l'UNICEF à Madagascar. Œuvrer pour faire évoluer les normes sociales et culturelles reste primordial pour ce type de problématique.
Donner confiance aux parents, qu'ils soient fiers de leurs enfants, que quel que soit l'enfant qui naît, s'il lui manque quelque chose ou s'il a une couleur différente, ça ne fait rien. Et à toute la société, de leur donner leur place, de les accueillir et de les traiter comme les autres enfants. Je pense qu'il y a ce problème vraiment au cœur du changement des mentalités et de comportements qui est aussi au cœur de cette question.
Des messages que Gilardi Toutouzange a déjà fait sien et qui pourraient bien cette fois-ci trouver écho auprès de la population malagasse. Sarah Teto, Antananarive, RFI.
Et vous écoutez RFI Antananarive où il est 8h42, l'heure de redonner la main à Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.
Merci à vous, Nemo en puisse, à tout à l'heure.